Radio Barque 16e et 3e partie, celle que nous consacrons depuis toujours à notre invitée. Alors Hélène Sandranier, nous vous avons déjà entendu puisque vous avez donné un certain nombre de fois votre point de vue et vous avez bien fait, c'est la règle. Mais bien entendu, maintenant, c'est vous en quelque sorte la vedette puisque c'est l'interview de notre invitée. Alors je le rappelle, même si on l'a déjà glissé plusieurs fois dans le cours de l'émission, vous êtes conseillère municipale d'opposition. Et depuis 7-8 mois, un peu plus, vice-présidente du conseil départemental et plus particulièrement chargée du secteur de la santé, puisque la santé, c'est depuis toujours votre métier.
C'est vrai.
Alors, lorsque vous avez été élue vice-présidente, on vous a retrouvée immédiatement sur un secteur qui est celui de la santé. Expliquez-nous.
Alors, j'apporterai juste une petite nuance. En fait, je suis la vice-présidente en charge de l'autonomie. C'est cela.
Oui, c'est un des secteurs de la santé.
Voilà, c'est un des secteurs de la santé qui vise deux populations plus précisément, qui sont les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. C'est ça dont je suis responsable, c'est cette politique autour de la prise en compte des besoins de ces deux populations, besoins qui et dont les réponses doivent s'inscrire dans les projets de vie des personnes concernées.
Voilà, voilà. Et votre première action que vous aviez dévoilée au cours d'une conférence de presse, c'est le projet, enfin, ou l'action Domiphone. Alors, dites-nous
oui.
Ce que ça recouvre.
Alors ça, j'ai envie de vous dire, je m'excuse, hein. Je vais un peu dévoyer. J'ai pas envie d'y rentrer comme ça parce que ça c'est un outil et c'est pas l'outil qui compte. Ce qui me paraît important.
Alors dites-nous voilà. Ce qui vous paraît important.
Ce qui me paraît important, c'est de dire voilà, on a en charge au niveau du département la politique des personnes âgées et la politique des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui est important pour nous et peut-être et sûrement pour moi aussi dans ce cadre-là, c'est là-dessus que tous les projets qu'on va mettre en œuvre vont être déclinés. C'est en ce qui concerne les personnes âgées, compte tenu de ce qui se passe dans le département, j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, 27% de la population a plus de 60 ans dans l'Aude. Dans 20 ans, ce chiffre aura doublé. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre une politique qui prend en compte cette dimension.
Le département va être une immense maison de retraite.
Oui, peut-être. Pas seulement
mais,
celui-ci.
Non seulement celui-ci. Et puis je crois que justement notre devoir politique, c'est de choisir
bien entendu
la maison de retraite en question. Et nous, notre volonté, elle est très forte, c'est de faire que les personnes âgées restent le plus longtemps possible chez elles et en santé. Et en ce qui concerne les personnes handicapées, je distingue mon propos, c'est de répondre effectivement à leurs besoins, ces besoins qui doivent s'inscrire dans leur volonté, dans leur projet de vie. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, les personnes âgées, le maintien à domicile, alors ça passe par différents axes, vous le savez, un des axes forts, c'est ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée. Autonomie, c'est cette prestation financière qui est attribuée par le département et qui permet à une personne âgée d'avoir une aide au quotidien pour les activités de la vie quotidienne. D'accord ? Et le Domiphone dont j'ai parlé dernièrement, c'est un service. Hein. C'est en fait la possibilité, lorsque le service prestataire vient à domicile, il prend le téléphone, il est en contact direct avec le département. Il y a un enregistrement de la prestation qui est faite immédiatement. Et aujourd'hui, grâce à ce Domiphone, les personnes âgées ont la capacité de suivre, ou leur famille, hein, parce que souvent c'est le cas, de suivre en direct l'état de leurs prestations, où elles en sont, ce qu'elles ont dépensé, ce qui leur reste. Donc c'est une information supplémentaire que nous leur donnons. Voilà. Alors l'APA, c'est un élément fondamental. Hein. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui dans le département, nous avons 5000 personnes qui bénéficient de l'APA à domicile.
Combien
5000. Ça représente 21 millions. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais là, depuis le 1er janvier, il y a une loi très importante dans laquelle nous allons nous investir, bien sûr, et j'ai envie de dire nous engloutir, hein, presque, qui est la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Cette loi, c'est une loi très, très importante qui a été portée par le gouvernement et qui a une mesure phare. C'est que l'APA, aujourd'hui, nous en connaissons, excusez-moi, les limites. Hein. Il y a toujours un moment où pour la personne, il y a un reste à charge. C'est-à-dire, bon... Et ce reste à charge peut être une difficulté financière importante. Or, cette loi va faire que les plans d'aide vont pouvoir être augmentés et surtout, surtout, j'insiste là-dedans, que les restes à charge vont diminuer. Et ça, c'est très, très important. Nous avons été des précurseurs, le département, dans cet engagement sur l'APA. Et nous allons pouvoir aller encore plus loin dans ce maintien à domicile.
Voilà. Alors, expliquez comment on peut diminuer ce reste à charge lorsqu'on sait très bien que les problèmes de finances sont...
Première question et deuxième question.
Oui, on peut, je vous en prie.
Ça, Hélène répondra globalement. En fonction donc quand même de critères oui. financiers familiaux ou pas, car quand même il y a des situations où certaines familles en fait, ont les moyens de compléter. En
fait. Tout à fait.
Enfin, c'est rien. J'en connais quelques-unes autour de moi dont le patrimoine en fait, immobilier suffirait largement en fait, oui. à compenser le reste à charge de leur maman en fait, à la maison de retraite.
Tout à fait. Je ne reviens pas là-dessus sur le fait que naturellement il y a des conditions de ressources. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des familles et des personnes aux ressources modestes qui sont mises en difficulté par les barèmes de la PA actuelle, nous le savons pertinemment, qui renoncent même parfois à des prestations. Donc la loi qui arrive et l'engagement du gouvernement suivi par le département, hein, puisque bon, pour le département, là, sur l'année qui vient, on parle d'un premier engagement d'un million d'euros supplémentaires. Donc cet engagement financier va permettre de répondre aux besoins des familles et de pouvoir répondre à ce besoin fondamental de rester à domicile.
Voilà. Oui, mais alors ce financement est-il assuré, puisqu'on sait aujourd'hui que les problèmes de financement sont à tous les niveaux, au niveau de l'État, des régions, des départements,
oui.
plus un endettement, les endettements, tout ça fait que le quidam moyen qui nous entend se dit, bon, il nous annonce des augmentations d'investissement quelque part, d'où proviennent...
Là, c'est un accompagnement d'État. L'État prévoit, sur ces mesures-là, 700 millions par an pour les nouvelles mesures. Il y a vraiment un très fort engagement. C'est un engagement politique qui était ancien, hein, qui a été posé par le président Hollande dès le départ, et que cette loi concrétise.
Ce qu'il faut préciser, peut-être, pour complètement mon propos, c'est que le problème des départements, c'est qu'ils ont la compétence sociale, dont notamment les secteurs dont s'occupe
le dernier.
Le problème, c'est que le législateur, lui, a les moyens législatifs de modifier les conditions même de la gestion de cette aide sociale, enfin, des aides sociales distribuées aux départements, de sorte que si l'État ne compense pas effectivement les mesures qu'il prend par le national par des transferts financiers aux départements, ils sont en difficulté financière. Donc voilà ce que j'expliquais à l'instant, Hélène. Elle vote cette loi à l'Assemblée, même l'État, bon, évidemment, la finance, les transferts aux départements, les financements en question.
Alors, comment voyez-vous la suite de votre action sur maintenant les 5 années qui viennent, puisque vous êtes élu pour 6 ans?
C'est cela. Je viens de zoomer particulièrement sur cet aspect, sur cet APA, hein, qui va permettre donc d'améliorer considérablement le maintien à domicile. J'insisterai aussi sur tout ce qui va permettre justement d'anticiper les conséquences du vieillissement. Et nous avons déjà mis en œuvre des programmes Senior Bien Vivre. La loi va permettre d'aller beaucoup plus loin sur des programmes de prévention de l'autonomie, notamment par la création, bon, c'est technique, mais quand même, ça comptera, d'une conférence des financeurs. Donc, un zoom particulier sur des programmes de prévention qui sera mis par le département. Nous avons aussi toute une politique en lien avec ce qu'on appelle des structures alternatives. C'est-à-dire, des fois, le domicile n'est plus suffisamment sécurisant. La maison de retraite, c'est trop tôt. Donc il existe ce qu'on appelait jusqu'à présent les foyers logements. Bon, aujourd'hui, cela devient des résidences autonomie pour lesquelles le département va s'engager. Nous avons déjà mis en place un audit qui va nous permettre une identification des besoins sur le territoire. C'est très important, ces foyers logements, parce qu'ils permettent de conserver plus longtemps...
Donc c'est une phase transitoire.
C'est un logement transitoire qui permet de maintenir une autonomie, une relative sécurité, dans lequel il y aura des forfaits autonomie, des forfaits liés à la prévention, et qui évite la mise rapide en institution dont on connaît les conséquences sur la santé globale et l'autonomie.
Oui, et le refus de beaucoup de personnes.
Tout à fait, et le refus de beaucoup de personnes. Donc, oui, pardon.
Oui, alors Michel, oui,
une remarque. Non, mais se poser une question. Il se trouve que j'ai eu, malheureusement, l'occasion de vivre pendant quelques années, ou de suivre pendant quelques années, quelqu'un de très proche en maison de retraite. Ce qui m'a frappé, hein, et ça c'est aussi l'ancien responsable de la formation professionnelle, entre autres à la région que je fus, c'est le déficit de formation des personnels qui sont dans ces établissements de maisons de retraite ou qui apportent des soins, en fait, sinon des soins, en tout cas des prestations à domicile. Dans leur rapport psychologique avec les personnes dont ils s'occupent. Et là, alors, outre le fait que ce sont souvent des métiers qui sont peu qualifiés, qui sont des métiers extrêmement difficiles, c'est compliqué.
Psychologiquement
et même physiquement de s'occuper d'une personne âgée en maison de retraite, en fait, ou à son domicile. Je trouve qu'il y a effectivement, de ce point de vue-là, tant du point de vue de du statut des personnes qui s'en occupent, que de leur traitement et que de leur formation, en fait, dans la relation à la personne âgée, il y a un déficit considérable qu'il conviendrait effectivement, un, de diagnostiquer et deux, de traiter par différents biais.
Oui, est-ce que vous êtes consciente de ce problème, Hélène Sandrine?
J'y mettrai quelques bémols, oui, alors... si vous me le permettez, parce que, bon, j'en ai pas parlé, mais une des axes de l'action du département, c'est l'offre des établissements de personnes âgées sur le département. Et le département s'engage dans le financement des établissements publics. Public. Et dans les conventions qui sont passées entre le département et ses établissements, la qualification des personnels, leur formation est un critère de qualité et d'attribution des financements. Donc, je suis moi-même, vous le savez, directrice d'une école d'infirmières. Donc, je sais que dans ces structures, travaillent des infirmiers, travaillent des aides-soignants, travaillent des aides médico-psychologiques dont la formation est garante de la qualité des soins qu'ils dispensent.
Je parlais moins des aspects techniques, en fait, des soins en question. On va pas débattre là-dessus, mais simplement, j'ai constaté, en fait, un écart, en fait, assez net, mais c'est normal. Enfin, il y a une différence de gestion dans le temps, quoi, hein, entre la formation des personnels hospitaliers, par exemple, dans leur relation aux malades. Et effectivement, le personnel fait en maison de retraite ou fait à domicile et les patients qui s'occupent. C'est tout. C'est un décalage dans le temps, enfin, qui va se résorber probablement. Mais je l'ai constaté personnellement,
voilà.
Après,
physiquement.
Je peux l'entendre, je suis garante. Enfin, pour le coup, avec une autre casquette, celle-là, ce sera la troisième de la matinée. Je connais la qualité des formations qui sont dispensées et peut-être pour vous rejoindre, ce qui n'a pas à un moment donné été pris en compte de façon assez importante dans la formation de ces personnels, c'est le vieillissement de la population. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, dans la formation, on met l'accent sur le soin, mais le soin à une personne âgée.
Exactement.
Voilà. C'est en ce sens que je vous rejoins.
Oui, voilà. Un tout dernier mot pour conclure.
Avant de conclure, parce que j'ai beaucoup parlé des personnes âgées,
oui,
mais je suis aussi en responsabilité sur les personnes en situation de handicap. Oui. D'accord. Et vraiment, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur un projet dans lequel la MDPH de l'Aude, vous savez, la MDPH, c'est ce guichet unique qui dépend, entre autres, du département, mais il y a d'autres financeurs.
Précisez l'anagramme.
L'anagramme, maison départementale des personnes handicapées. Voilà. Et cette MDPH, cette année, va s'engager dans un projet qu'on appelle une réponse accompagnée pour tous. Cette réponse accompagnée, ce projet, nous sommes le département, un des 26 départements pionniers qui ont fait le choix de s'engager dans ce dispositif. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que nous nous sommes engagés dans un dispositif qui va faire qu'il n'y ait plus de personnes en situation de handicap qui puissent se trouver ce qu'on appelle sans solution. Avec, si vous voulez, pour reprendre une formule célèbre du rapport Pivetot, la volonté d'un zéro sans solution. Ça paraît difficile à comprendre, mais aujourd'hui encore, on a des décalages importants entre une demande et une offre. Et on a des personnes qui ne trouvent pas, des enfants parfois, mettant les parents dans des situations de détresse inimaginables, qui ne trouvent pas un établissement pour leurs enfants. On a une MDPH qui octroie des droits, mais il n'y a pas corrélé l'obligation de répondre, j'ai envie de dire, à ce que demande ce droit. Parce qu'il n'y a pas toujours la solution, parce qu'il y a de nombreux partenaires. Et ce que ce projet va nous permettre de faire, c'est de mettre tous les partenaires autour de la table. La MDPH va être l'assembleur de ce projet. Et vraiment, vraiment, je pense que nous allons franchir là, dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, une marche qualité dont nous avions impérativement besoin.
Eh bien, le temps passe. Merci, c'est là-dessus qu'il faut conclure. Merci.
Pas interroger Hélène de sur son avenir politique à Narbonne.
Non, justement, mais c'est ce que je voulais faire.
Fois, peut-être.
Bien entendu, parce qu'il y aura, des prochaines fois, je l'espère, évidemment. Et à propos de prochaines fois, le prochain invité sera Alain Fabre, maire de Bise-Minervois et responsable dans l'agglomération de Narbonne, des HLM, entre autres. Merci encore une fois, Hélène Sandrani, d'être venue nous parler de votre action au département, cette action sociale que vous venez de décrire, parfois d'ailleurs avec fougue et passion. Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.